je me dis pas que quelque chose est impossible dans la réalisation. Après, il y a des choses qui sont impossibles parce que d'autres personnes t'ouvrent pas les portes.
Salut les amis et bienvenue dans Inspiration Créative, le podcast qui explore les apprentissages et les stratégies des créateurs les plus fascinants. Je m'appelle Kylian Talin et dans chaque épisode, je pars questionner les meilleurs créateurs pour comprendre les choix et les découvertes qui ont changé leur vie. Cet épisode a été réalisé grâce à l'aide de Patreon, qui est le partenaire officiel de cette saison 4, et je suis très heureux de travailler avec eux parce qu'ils se battent pour la même cause que moi, permettre aux créateurs de travailler sur ce qu'ils aiment et être rémunérés en retour par les gens qui aiment leur travail. Le fonctionnement est très simple, si vous créez, Patreon vous permet de recevoir chaque mois de votre communauté une contribution financière pour soutenir vos créations. Et bien sûr, ça fonctionne quel que soit votre domaine de création. La créativité, ça nécessite de sortir des sentiers battus, et Patreon l'a bien compris, parce que grâce à ce lien entre vous et vos fans, vous recevez le support dont vous avez besoin pour oser de nouvelles idées et aller encore plus loin dans vos projets. Et tout ça, bien sûr, sur une interface simple et facile d'accès pour vous permettre de vous concentrer sur la chose la plus importante, vos créations. Je suis très fier qu'on puisse vous aider ensemble à progresser sur cette saison 4, et je vous encourage tout de suite à aller vous inscrire sur leur site www.patreon.com. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Les amis, j'ai un bonheur fou à accueillir dans cet épisode une personne qui me fascine depuis des années, la géniale et surprenante Natasha Birds. Ça fait longtemps que je suis son travail et je dois dire que c'est une des personnes qui m'a le plus impressionné dans sa capacité à réinventer sa vie et à oser aller vers les rêves qui sont importants pour elle. Elle a eu un passé professionnel où elle était très présente dans les mondes de l'influence avec notamment un blog qui marchait du feu de Dieu. Et petit à petit, elle a réussi à laisser exister une petite flamme qui était en elle, qui était un rêve de petite fille, de pouvoir devenir artiste et de vivre à 100% de ses créations. Et c'est un rêve qui avance en ce moment à grands pas, son univers de femme fleur est incroyable, je peux que vous encourager à aller voir ce qu'elle fait sur Instagram et sur son site, c'est juste magnifique. Elle vend en ce moment ses premières toiles et elle sort en juin un livre où elle explique son univers des femmes fleurs. Mais elle explore tout un tas d'autres outils aussi qui l'aident à aller plus loin et à enrichir son univers d'autres inspirations. J'ai eu la chance de la rencontrer dans son atelier à Périgueux et on a eu une discussion passionnante dans laquelle on a parlé de comment être prolifique dans ses créations, de tout quitter et de repartir de zéro, de croire en ses rêves et de les rendre accessibles et de tout un tas d'autres sujets que je pense que vous allez adorer. Je trouve que Natasha c'est un sacré mélange entre une créatrice invétérée qui ne s'arrête jamais et d'un côté une entrepreneuse qui a plein de projets, plein d'idées et l'envie de les réaliser. Donc vous allez voir que c'est une discussion incroyable. Donc je vous laisse en notre compagnie et je vous souhaite une bonne écoute. Je suis curieux que tu puisses, c'est très dur de te présenter, parce que je trouve que tu es quelqu'un qui touche à tout et on le voit, il y a de la peinture, il y a des tapis qui sont cachés juste là, il y a de la céramique à côté. Comment toi, quel mot tu utilises pour te présenter? Quel est le mieux pour toi?
C'est encore en cours, j'ai beaucoup de mal moi aussi à mettre un énoncé sur ce que je fais. J'aimerais dire que je suis artiste, tout simplement. Ouais. Je trouve qu'en France, quand on donne le terme artiste, il y a un côté un petit peu prétentieux.
D'accord.
Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai. Il y a quelque chose d'un peu, attention,
un peu précieux,
madame
peut-être.
Est artiste. alors qu'en fin de compte, artiste, c'est juste faire de l'art et c'est ce que je fais au quotidien. Donc, moi, c'est ce qui me ressemblerait le plus. Je suis pas, je pense, encore arrivée à un stade où je me sens assez sûre de moi pour me dire artiste.
Pleinement artiste.
J'ai pas la sensation d'avoir été encore validée, entre guillemets. Ouais. Donc, quand on me demande, je dis que je peins et que je fais de la poterie et que je fais plein de trucs, mais qu'il n'y a pas trop
J'adore.
De
J'adore. C'est super intéressant ce que tu dis parce que... C'est un truc qu'on a tous, tu sais, de se dire à quel moment on peut se dire sérigraphe, à quel moment on peut se dire youtubeur, à quel moment... Qu'est-ce qu'il te faudrait, toi, comme validation pour te dire « je suis artiste »
Comme c'est encore assez récent pour moi, je pense que j'ai besoin d'être validée par les professionnels du milieu de l'art, ouais. Par la scène artistique, donc que ça soit par des galeries en étant exposée, par des ventes de tableaux. En fait, j'ai la sensation que j'ai besoin que quelqu'un d'autre d'extérieur qui est déjà validé dans ce monde-là me dise « ok, c'est bon, tu es artiste, tu es reconnu en tant que tel ». Et j'en suis pas encore à ce stade-là, donc je me sens... je fais de la peinture, mais je me sens pas encore peintre. Tu vois, il y a une différence entre je fais et je suis. Et là, j'en suis à j'expérimente, je fais et j'espère arriver à je suis. Mais je pense qu'il y a encore un peu de chemin, et, mais je lâche pas.
C'est marrant de voir que je trouve que même à ton niveau, et avec, on va en parler après, mais il y a beaucoup de choses que tu as fait avant d'arriver à la peinture. Mais il y a toujours, même sur une nouvelle expertise, un nouveau domaine, un nouveau secteur, une forme de
syndrome de l'imposteur ou d'illégitimité qui est en question, de se dire voilà, est-ce que je peux me prétendre artiste, ou en tout cas est-ce que je peux m'affirmer artiste, qui est encore présent quoi.
Ouais, exactement. Ouais.
Ce que je trouve génial, c'est que quand on est dans ton atelier, on voit qu'il y a, je trouve que tu es très prolifique dans le sens où tu produis beaucoup. Est-ce que c'est facile pour toi de peindre par exemple et de faire presque, tu vois, de c'est un peu bizarre de dire ça, mais de la quantité, tu vois, c'est quelque chose qui est simple.
J'ai toujours été comme ça. Même gamine, tu me demandais de faire un truc, j'étais obligée d'en faire 10 000. J'ai fait une école d'art et je me souviens qu'on devait rendre un carnet de croquis tous les trimestres sur un thème. Et on pouvait rendre 20 pages comme on pouvait en rendre 5. Et moi, j'étais celle qui arrivait, tu sais, avec des croquis, en fait, enfin des carnets que je ficelais les uns aux autres. Je faisais des chapitres.
J'adore.
Mais en fait, c'est pas une façon, tu vois, de me rendre intéressante ou de failloter le prof ou quoi, c'est juste que j'ai un besoin en fait de création qui est assez fort, ouais. Et c'est juste qu'en fait ça m'emplit et que ça me rend heureuse, et que quand je crée pas, c'est que ça va pas en fait. Si tu me vois, si je fais la morte, tu vois, sur les réseaux sociaux et que je montre rien créativement, c'est à peu près certain que c'est parce que je passe par une période qui est pas hyper chouette, et j'ai besoin de créer beaucoup, j'ai besoin qu'il y en ait partout, j'ai besoin que d'être tout le temps, tu vois, sur le feu, sur plein de choses. Je suis hyper triste quand il se passe rien professionnellement dans ma vie. Et ça, c'est depuis toujours. Je suis un peu à 100% sur tout, tu vois. On en parlait un petit peu avant. Ouais. Si je me dis, vas-y, je me lance dans la céramique, il ne va pas y avoir, viens, tu testes avec un petit pain de terre et tu vois si ça te plaît. Moi, je vais partir, je m'achète un four, je m'achète un tour, je vais faire 150 vases. Tu vois,
j'ai vu le four à côté.
Il n'y a pas de demi-mesure, je suis un peu comme ça, ouais.
Est-ce que cette quantité-là, elle te permet aussi d'aller chercher une forme de qualité? Tu dirais que c'est un atout pour toi de produire beaucoup, pour peut-être te permettre d'en jeter derrière, ou pas d'en jeter, mais en tout cas de garder que certaines qui te parlent plus?
Non, pas du tout.
Non.
C'est plus qu'en produisant beaucoup, j'ai la sensation de que mon univers, il s'ancre.
D'accord.
Tu vois, j'ai l'impression que si tu montres que 2-3 trucs de toi, on va pas dire « Ah, mais ouais, c'est cette personne ». Et au-delà de le faire pour les autres, moi j'ai besoin de m'entourer de toutes mes œuvres, de toutes mes peintures, de tous mes dessins, pour pouvoir jeter un regard et me dire ok, tout est cohérent, l'histoire elle est là, c'est écrit, j'ai besoin qu'il y ait beaucoup en fait pour m'ancrer, pour me marquer dans cet univers. J'ai la sensation que s'il n'y a pas tout ces choses-là, c'est pas assez complet, c'est trop vide, c'est pas assez cohérent, et j'ai un besoin de cohérence qui est un peu compliqué à gérer. Je suis très il faut que tout aille avec tout, il faut que tu vois, et du coup j'ai besoin qu'il y ait cette matière pour pouvoir travailler avec. S'il n'y a pas beaucoup de production, tu peux pas construire un fil, tu peux pas construire une histoire, tu peux pas construire ton image, etc. Ouais.
Je trouve ça super intéressant, cette question de la cohérence. Et c'est marrant parce que moi, j'arrive, je prépare un interview, j'ai des trucs, je me dis, allez, on va parler de ça un moment, sûrement, et de ça. Et en fait, là, en 3 minutes, j'ai déjà 1000 autres questions qui arrivent, donc c'est super intéressant. Cette question de la cohérence, est-ce que tu la vois comme un cadeau dans ta création, ou comme... Parce que ça, je me dis, ça peut être aussi enfermant, tu vois, de dire, il faut que je sois cohérent, il faut qu'il y ait un suivi dans mon style, il faut que presque que je me plagie moi-même de temps en temps, enfin, sans le vouloir,
exactement.
Qu'il y ait une vraie ligne directrice, tu vois. Ou est-ce que ça enrichit encore ton univers?
À mon sens, ça l'enrichit. Après, c'est une punition que je m'inflige toute seule, donc je l'accepte. Tu vois, personne ne me dit « Non, toi, ton feed, il est comme ça et tu ne peux pas en changer. » C'est moi toute seule qui me donne cette ligne. Ça m'aide juste à ne pas me perdre. J'ai la sensation que si je n'avais pas une espèce de ligne édito en tête, qui s'est fait naturellement, je ne me force à rien, c'est assez naturel. Ma palette de couleurs, c'est parce que c'est la palette qui me touche. Tu vois, c'est assez... je me fais pas des briefs, tu vois, toute seule en me disant lundi, il faut faire ça, mardi, il faut que ça colle. C'est assez naturel, mais c'est quand même omniprésent dans ma façon de penser. C'est devenu un mécanisme, mais en fait, ça me permet de pas me perdre et de me sentir... Il y a plus de moments où je me dis... est-ce que ça me ressemble ou pas, ce que je viens de peindre? Est-ce que on pourrait croire que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que ça va avec le reste? Ou du coup, j'ai un peu un truc où des fois, tu te demandes un peu qui tu es. Est-ce que c'est bien toi? Ça, je ne l'ai plus du coup par rapport au fait où tout est et presque cadré et cohérent. Et en fait, c'est devenu juste quelque chose qui m'enrichit parce que je vais ajouter des nouvelles choses qui vont remplir ma ligne édito et qui vont permettre de ne pas me perdre et pas de commencer à peindre ouais. des biches à tête ouais. de dauphin, par exemple.
Pourquoi pas ? Je trouve ça génial parce qu'en fait, c'est, tu vois cette contrainte presque de ta cohérence comme un moyen d'aller chercher encore ouais. plus quelque chose, encore plus une minutie, encore plus exactement. Quelque chose qui ne va pas du tout t'enfermer, mais plus au contraire te permettre à un même endroit, de mettre un coup de projecteur et un coup de projecteur et un coup de projecteur.
Exactement. Tu sais, j'ai une période, notamment sur Insta, où j'avais besoin de montrer que des choses lila. J'ai fait une fixette sur cette couleur et du coup, j'avais un feed qui était quasiment que lila et tout le monde me disait, mais ça veut dire que si tu vois un truc rouge, en gros, tu peux pas le poster, c'est hyper enfermant. Et en fait, ça a été une période où, au contraire, mon œil, il était tout le temps en exercice à rechercher du violet partout où j'étais et où je découvrais, je voyais des choses que j'aurais sans doute pas vues si j'avais pas été dans cette période un peu violette à rechercher que le violet. Et après, c'est une manière de voir les choses. Ça peut être enfermant pour quelqu'un qui a pas besoin et on peut ne pas avoir besoin de ligne éditoriale et d'être dans une harmonie absolue. Et on peut avoir besoin de ça pour se sentir plus stable. Moi, je sais que c'est une espèce de petite fixette qui a des moments j'aimerais réussir à m'en détacher. Et à côté de ça, je me dis que peut-être que c'est une force et que c'est ce qui me permet d'être... pas sûre de moi sur ce que je fais, mais sûre de moi sur... je sais que ce que je montre, c'est réellement moi et c'est réellement ce que j'aime. J'ai pas de doute sur mes goûts et sur mon univers. Après, sur ma production, sur ma technique, c'est autre chose. Mais en tout cas, sur mon univers, je sais qu'il me correspond et que c'est vraiment moi,
ouais,
tu vois.
C'est toi entière, quoi.
Ouais.
C'est super intéressant, cette réflexion sur l'univers, parce que l'univers d'un créatif, tu vois, l'univers de création. Parce que... je pense que c'est un truc qu'on recherche tous quand on crée, à se dire comment on peut venir enrichir cet univers. Tu vas avoir des univers riches, des choses qu'on explore, etc. Est-ce que toi, il y a des conseils ou des choses qui t'ont permis de te dire je vais essayer de continuer à creuser cet univers, continuer à l'étendre, continuer à tu vois, faire sauter les barrières peut-être au début on commence par un périmètre. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont permis de te dire je vais continuer à construire et étendre cet univers de création qui est le mien ?
Écoute, je me pose pas trop de questions sur ça.
Peut-être la curiosité.
Ouais, j'aime toucher à tout. En tout cas, sur ce qui est artistique, tu vois, j'aime toucher de la peinture comme j'aime toucher de la céramique. Donc ça, c'est plus quelque chose qui va venir. En fait, ce que je raconte dans mes peintures, j'ai envie de le raconter avec de la terre, j'ai envie de le raconter avec du bois, j'ai pas envie de m'arrêter qu'à de la peinture, j'ai envie d'imaginer des choses en 3D, j'ai envie d'imaginer des choses de 2 mètres de haut, comme j'ai envie d'imaginer des tout petits colliers minuscules. C'est plus ça qui m'intéresse, c'est que quand je vois une nouvelle matière, je me dis comment je pourrais l'adapter à ce que je suis en train de faire, comment mes femmes fleurs, tu vois, elles seraient, je sais pas, en mousse, en n'importe quoi. J'ai toujours ce mécanisme-là de me dire, ah punaise, si je pouvais... Et parce que j'aime vraiment apprendre des nouveaux arts, comme là, la céramique, ou faire des tapis. J'aime vraiment, tu vois, ce processus d'apprendre l'art. Et c'est plus comme ça que je viens remplir, tu vois, mon univers en me disant, ah, ça serait génial, je sais pas, d'avoir un jour une femme fleur peut-être sculptée en métal, ou j'en sais rien, en bois. C'est plus dans ce sens-là, tu vois.
Ouais, c'est une vraie logique d'exploration. Et je t'avoue que je suis assez admiratif parce que la façon dont on parle là, c'est j'ai pensé à la céramique, j'y vais à fond, j'achète la machine, j'achète le four, j'ai pensé, je vais faire des femmes fleurs en mousse, ah, qu'est-ce qu'on fait avec de la mousse, etc. Est-ce que tu, dans ton côté 100% comme ça, où tu vas vraiment à fond, il y a aussi des choses où, où ça bloque, tu vois, où c'est plus compliqué pour toi d'y aller et de faire, ou au contraire, t'es très facilement dans l'action, très facilement en mouvement, très facilement...
Non, j'aime bien essayer, expérimenter.
T'as toujours été comme ça ?
Ouais. Pour l'art, hein. Le reste, rien à faire. Mais je suis assez décomplexée sur l'art, tu vois. Je me suis jamais dit, non, je peux pas faire de céramique parce que j'ai pas fait une école de céramiste.
T'as pas besoin de permission, quoi.
Sur ça, en fait, je comprends pas pourquoi on se mettrait des barrières à apprendre à faire quelque chose qu'on peut finalement apprendre. Il y a des loupés, évidemment, si t'as pas un prof, mais tu peux peut-être prendre 4 cours de céramique dans un atelier et après te lancer chez toi. J'ai pas cette peur-là. Je sais qu'il y a des personnes qui vont reculer cet instant parce qu'ils vont se dire « Ah, et si j'y arrive pas, ça va être un peu décevant ou ça va être beaucoup d'efforts. » Moi, c'est un truc où je suis complètement décomplexée. Au pire, tu vois, j'y arrive pas et bah vas-y, c'était pas le truc qui m'allait, au moins j'aurais essayé. Donc sur ça, je suis hyper décomplexée et presque tant pis pour le résultat. Mais en fait, j'aime trop ça. C'est juste que je suis décomplexée parce que j'aime tellement ça que j'ai pas envie de penser au côté négatif de « et si j'y arrive pas ?» Et je peux me le permettre aujourd'hui, tu vois, d'y aller à 100%. C'est mon métier à 100% du temps aussi, ouais. Donc c'est plus facile. Mais non, sur ça, je suis hyper décomplexée. J'y vais et on verra.
Je trouve ça super intéressant ce que tu dis sur aussi le fait d'aimer tellement ce qu'on fait qu'en fait, ça devient facile.
Ouais.
Pas facile, tu vois. Bien sûr qu'il y a plein de choses super
bien
difficiles,
sûr.
Tu vois. Mais en fait, t'as déjà ce prérequis-là qui est comme un atout par rapport à toute personne qui essaierait de le faire parce qu'en fait, tu aimes ça. Et c'est un truc, je pense, qu'on néglige souvent. Parfois, on se dit, je vais faire des vidéos sur YouTube ou je vais faire un podcast ou je vais faire. Parce qu'on se dit, c'est cool et tout le monde fait ça. Mais on réfléchit pas assez à qu'est-ce qui est vraiment nous et qu'est-ce qu'on aime faire. Pas par nature, il n'y a pas vraiment de nature, mais assez facilement dans notre personnalité,
ouais.
Pour que ça devienne facile et qu'on puisse le répéter et qu'il y ait aussi des effets cumulés de ces productions,
bien
de
sûr.
Ces essais-là qui viennent dans le
bien
temps.
Bien sûr, et je pense que c'est plus tu fais, plus tu as envie de faire. Tu vois, c'est un peu comme l'appétit. Hein. Plus,
ouais.
Tu, plus tu crées et plus tu as envie de créer et plus tu veux encore plus de production et plus tu veux toucher à plus de choses et ça devient presque obsessionnel et tu es toujours à la recherche du nouveau truc que tu pourras ajouter ou de la nouvelle matière que tu pourrais toucher. Après, moi, je pars un petit peu du principe que je pense qu'on est... Il y a certaines personnes qui naissent avec des facilités de compréhension ou qui apprennent plus vite. Mm-hmm. Mais je pense aussi que pour beaucoup de choses, maintenant, tu as YouTube qui te donne des tutos de A à Z.
Tout apprendre.
Il y a des matières qui coûtent moins cher que d'autres et que si tu as vraiment envie, tu vois, de dessiner... Vas-y, fin fonce et au pire, tu n'y arriveras pas au début et tu finiras forcément à un moment donné par arriver à ce que tu veux. Et sur ça, je suis assez détendue, tu vois. Je me dis pas que quelque chose est impossible dans la réalisation. Après, il y a des choses qui sont impossibles parce que d'autres personnes ne t'ouvrent pas les portes ou tu n'as pas accès à certaines choses. Mais de toi à toi, si tu veux apprendre à faire de la céramique ou à dessiner, après, c'est des excuses qu'on se trouve, mais tu vois, des crayons de couleur, c'est un budget
raisonnable, très raisonnable.
Hyper raisonnable et après, c'est du temps et maintenant, on a l'ordi qui nous apprend tout, tu vois.
Ouais,
donc,
ouais.
Je me dis qu'après, c'est juste une échelle de à quel point tu en as envie, à quel point c'est important dans ta vie et je peux comprendre que des fois, on a envie de faire des choses, mais que c'est pas suffisamment fort pour passer le cap, tu
ouais.
vois.
Ouais, c'est très intéressant. Je trouve ça vraiment cool de pouvoir se dire Pose-toi la question avant de faire quelque chose, à quel point t'en as envie ? Et si t'en as envie, en fait, cette envie-là va venir t'alimenter pour faire et,
ouais.
et y aller, quoi. Je trouve ça cool parce que tu me disais tout à l'heure, juste avant qu'on commence, que ça faisait 2 ans à peu près
ouais.
que tu faisais de la peinture.
C'est ça.
Et c'est intéressant, je trouve, de remettre un peu de cadre aussi dans ton parcours, dans ton histoire. Il y a des choses de cette version précédente de toi que tu fais encore. T'es
mm-hmm.
encore super présente sur Insta.
Ouais.
Il y a encore des choses qui existent. Mais la peinture est assez récente. Il y a 2 ans, t'en faisais pas du tout. C'est un peu comme tu recommences un peu à zéro sur quelque chose. Ça a été facile pour toi, ce revirement un peu, je dirais pas que t'as mis tout le reste à la poubelle avant, mais il y a plein de choses de ton ancienne activité, de ce que tu faisais avant. T'as été blogueuse, t'as fait beaucoup de choses pour des marques, t'as travaillé sur plein de choses très différentes que la peinture. Est-ce que ça a été facile pour toi, ce revirement de situation et ce redémarrage à zéro sur un tout nouveau secteur ?
En fait, ça a été hyper nécessaire. Tu vois, je ne me suis pas trop posé de questions. C'était soit je disparaissais un petit peu de la toile et j'arrêtais parce que je ne me sentais plus en phase avec ce que je faisais et que ça ne me plaisait plus. Donc, c'était soit j'arrêtais et je reprenais une vie très différente, mais qui à ce moment-là me faisait rêver et me convenait.
Tu me disais que même à un moment, tu te posais la question de dire je reprends un emploi salarié et puis j'arrête.
Ouais, je rentre chez moi à une horaire convenable et je profite de mes enfants et de ma vie et j'arrête de, de me forcer à, tu vois, être prise en photo. J'arrête de je sais pas, de faire quelque chose avec lequel je me sens plus en face, parce qu'en fait, c'est un métier qu'on s'était créé sur mesure, mine de rien. Et à la fin, ça devenait pénible pour moi de le faire. Donc, il n'y avait plus d'intérêt, en fait, d'être à son compte, mais d'être tenu à faire et à rendre des choses avec lesquelles tu n'es pas aligné et avec lesquelles tu ne te sens pas bien et qui ne vont pas avec ton mode de vie. Donc, je m'étais dit, à part financièrement, pourquoi je me forcerais ? Donc, on s'était dit, soit on arrête tout et on ouvre peut-être... On avait parlé d'ouvrir un restaurant, tu vois, on était parti sur d'autres choses complètement différentes.
Vous auriez fait quoi comme plat gastro ?
Écoute, on voulait faire un restaurant végétarien. Ça, c'est arrivé juste avant le premier confinement. Donc, je voulais déjà arrêter avant le premier confinement. Et il y a eu le premier confinement et on s'est dit... Bon, ouvrir là tout de suite un resto, c'est peut-être pas la bonne période et la bonne idée, disons. Donc, ça tombait plutôt bien qu'on soit pas lancé avant et qu'on se retrouve pas très embêté. Et du coup, on a profité avec mon mari de ce confinement pour se dire, tu sais quoi, on a un peu de temps et ça nous plaît plus. Viens, on tente un peu... Un dernier truc. Et du coup, au lieu d'arrêter, on s'est dit on va tenter de faire exactement ce qu'on aime. Et au moins, si on se casse la gueule, tu vois, de toute façon, on va arrêter. Donc, autant que ça s'arrête sur...
Une tentative.
Sur une dernière tentative qui nous tient à cœur. Donc, mon mari s'est mis au tatouage. Moi, je me suis mis à la peinture. Et c'est comme ça, en fait, que ça a débuté. C'était vraiment... Moi, être peintre, j'y croyais pas. J'avais la sensation que plus personne en vivait, que c'était un milieu avec trop de codes, trop fermé, auquel j'appartenais pas. En plus, je suis pas à Paris. Enfin, pour moi, c'était quelque chose qui était pas tellement atteignable. Mais je suis un peu têtue et je m'étais dit, au pire, au moins je peins pour moi et juste je réalise ce truc pour moi.
C'était un rêve d'enfant aussi.
Exactement. Et puis on verra. Donc je me suis un peu lancée comme ça dans la peinture. Et tout doucement, toute la communication que j'avais sur les réseaux, elle a changé assez progressivement pour laisser de plus en plus place à la peinture. Et aujourd'hui, comme tu disais, il y a pas mal de choses que j'ai, entre guillemets, jetées à la poubelle. Ouais. Mais ça n'a pas été une grosse réflexion et ça n'a pas été très dur parce que, je suis à 100% et parce que... Et parce que la première toile, j'ai décidé de faire une toile de 2 mètres sur 2 et d'effacer toutes mes anciennes publications. Et de, tu vois, je suis un peu...
C'était presque vital, j'ai l'impression, dans ce que tu dis. En mode, c'était... En fait, on veut plus de se passer, même s'il a plein d'avantages dans notre fonctionnement et ça a été ce qui nous a alimenté aussi pendant des années avec mon mari. On veut plus de se passer là. Du coup, tentons. Et en fait, on essaie de se réinventer, même si c'est dur et qu'on sait pas ce que ça va donner. En fait, c'est tellement important qu'on y va, quoi.
Ouais, c'est exactement ça. Mais on n'a pas trop peur de l'inconnu, tu vois. On est parti vivre en Espagne, on a pris notre tout petit de 3 ans sous le bras, une valise, et on est parti comme ça en se disant on trouvera bien un appart sur place. Tu vois, on n'est pas très peureux sur l'aventure. Ça en était une nouvelle, mais c'était quelque chose en fait que je voulais trop profondément. Et j'arrivais pas à faire abstraction. La peinture, elle revenait tout le temps. Et c'est quelque chose vraiment auquel je pensais tout le temps et je sentais que c'était quelque chose dans ma vie que j'allais sans doute regretter si je ne l'avais pas tenté. Et quand sur les réseaux, tu as un certain nombre d'abonnés, de contacts, il y a un moment donné en fait où je me disais peut-être que dans 2 semaines, c'est fini. Est-ce que tu en auras fait un truc bien de tout ça ? Est-ce que tu auras fait un truc bien pour les autres ? Et est-ce que tu auras fait un truc bien pour toi ? Est-ce que tu vois, dans 30 ans, je ne me dirais pas... Bordel, il y avait 200 000 personnes qui me soutenaient et j'aurais pu réaliser un rêve, en faire un truc bien. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est de vendre des trucs ou tu vois, des trucs que j'ai adoré faire à un moment donné dans ma vie. Hein. Je suis pas du tout dans la soupe de l'influence, mais ça me correspondait plus. C'est plus ce que je voulais profondément. Et du coup, je me suis dit, les gens qui comprendront pas le revirement, ils auront tout à fait le droit de ne pas aimer, de partir. Mais pourquoi ça sera à moi de partir, en fait? Tu sais, je ne sais pas si c'est vraiment français ou juste humain, mais il y a un truc de... On se range soi-même dans une case et c'est hyper dur d'en sortir et de dire, non, je peux aimer chanter, mais je peux aussi aimer, faire du golf.
Je pense que quand on a une communauté qui se développe aussi autour de ce qu'on fait, qui est aussi, mine de rien... notre source de revenus, parce que y a derrière c'est ce qui nous permet de manger aussi derrière. C'est aussi pas facile de se dire, est-ce que les gens vont me suivre? Est-ce que je les trahis? La promesse, c'était ça. Il y a une nouvelle promesse qui est, on va faire de la peinture.
Est-ce que les gens vont nous suivre? Exactement. Parce que, mine de rien, les marques, c'est comme nos clients, enfin ceux qui nous payent, qui nous permettent de vivre de tout ça. Peut-être qu'ils vont dire elle est mignonne, mais moi c'est toi le, tu vois, j'en ai rien à faire. C'est cool, mais donc il y avait une prise de risque. Mais en fait, j'étais tellement arrivée au bout de ce métier que dans tous les cas, en fait, c'était soit stop, soit on le change. Ouais. Donc voilà, autant le tenter et c'est parti comme ça. Il n'y avait pas de déception possible parce que dans tous les cas, je voulais plus de cette vie.
T'as dit un truc que je trouve très intéressant, ça m'a fait réfléchir quand tu l'as dit, mais tu as dit avec mon mari on n'a pas peur de l'inconnu.
Ouais.
Et en fait je me rends compte aussi à quel point dans la création on navigue toujours dans un espèce d'océan d'incertitude, tu sais, genre tu sais pas de quoi demain va être fait, tu sais pas ce que tu vas faire, tu sais pas si ce que tu vas faire va être apprécié, va être soutenu, si tu vas pouvoir en vivre, etc. Et je trouve que c'est très intéressant. Et est-ce que c'est un fonctionnement que vous avez toujours eu? Tu vois, en tant que couple, ou toi, en tant que personne dans ton approche de la création, ou est-ce que ça s'est développé au fil du temps et vous avez un peu apprivoisé ce côté, cette incertitude permanente?
Non, on a toujours été plutôt relax. Tu vois, quand on est parti à Barcelone, c'était il y a 10 ans, on avait tous les deux 2 CDI. On avait un bébé de 3 ans, enfin un petit garçon de 3 ans. On avait un crédit sur le dos pour un petit appartement en banlieue dans le 95. Mmh. On n'avait pas beaucoup de moyens. Toi, on avait des SMIC, enfin on débutait, on était bien, mais on n'était pas, on n'avait pas l'argent de côté. On vient de famille, enfin. Bon, on s'est dit, on va mettre l'appart en loc, ça payera le crédit, et puis on verra un peu, tu vois, sur place. On a toujours été un petit peu comme ça parce qu'on s'est rencontrés très jeunes, on avait 15-16 ans, et je pense que dès le début, on s'était dit que tout serait un peu possible, qu'on est un peu dans cette manière-là de penser, de se dire que quand tu veux vraiment quelque chose... on reste à des rêves réalisables. Hein. Quand tu veux vraiment quelque chose, tu peux le tenter au moins. Tu vois, au lieu de dire non, ça va être trop dur, ou vivre en Espagne, c'est trop compliqué. On a toujours été un petit peu... on est réfléchi, mais on le tente.
Mais on y croit, quoi.
Ouais. On a toujours tenté les choses. Après, ça foire pas, mais...
Si on a des rêves, il faut y aller, quoi.
Ouais, au moins le tenter. Tu vois, moi, j'ai pas envie d'avoir des regrets en me disant... je sais pas, qu'il y a cette vie-là et qu'on rêvait de parler japonais et qu'on n'a même pas essayé. Moi,
C'est un peu comme dans un couple, tu sais, quand par exemple un couple se met dans un appartement, d'accord, ils emménagent ensemble. S'ils font un pas en arrière à un moment et décident de rester en couple, mais de prendre un appart séparé, la société va dire « Ah, mais ça marche pas, tu vois. » Alors qu'en fait, ce que tu dis là est super intéressant, c'est que accepter d'aller vers l'inconnu et tenter le rêve, ça t'empêche pas ensuite de faire le pas en arrière et revenir à un CDI et de le reprendre et de repartir derrière, tu vois. Et en fait, on a tellement peur de se voir un peu dans l'échec dans la société, comme si les gens allaient dire « Ah, mais vous avez vu, ils ont tenté de vivre leur rêve et qu'est-ce qui s'est passé ? Rien. Ah là 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 là. » Et du coup, tu fais le pas en arrière et donc tu n'oses pas faire ce premier pas en avant. Alors qu'en fait, il faut s'alléger de ce poids-là des candidatons ou de,
du jugement, quoi. Exactement. Après, tu vois, nous, c'était réfléchi. Si ça ne marchait pas, on avait toujours notre appart à Paris qu'on aurait repris. Moi, j'avais commencé à bosser sur les réseaux, donc j'avais déjà des clients. Donc oui, je partais d'un CDI, mais je commençais quand même à pouvoir en vivre, tu vois. Ouais. C'était réfléchi.
Ouais. Et ça, je trouve ça intéressant parce que c'est aussi une logique de quand tu choisis de faire le grand saut, en tout cas un des grands sauts, c'est quels atouts t'as mis dans ton sac avant et que t'as préparé, que ce soit des compétences, que ce soit des clients, que ce soit des relations ou autres. Ça aide aussi à se dire ok, j'y vais, et en fait,
c'est super intéressant. Ouais. Bien sûr,
trop cool. Donc là, ça fait ce que je trouve super intéressant, c'est qu'on se parle au moment où tu vends tes premières toiles de peinture.
Ouais, j'ai vendu ma première toile hier à peu près à la
Bravo.
Même heure.
Ça fait quoi? Comment tu te sens? Fière ou...
Oui, je pensais que je serais triste.
De la laisser
tu vois,
partir.
C'est dur de, enfin c'est dur. c'est pas un enfant, hein. On...
bah ouais, mais tu mets quand même des émotions dedans.
Mais c'est particulier, disons, de voir partir quelqu'un avec quelque chose sur lequel tu as passé du temps et que tu pourras plus reproduire et que tu reverras peut-être plus jamais de ta vie. Je pensais que je serais triste et en fait, c'était une personne adorable. Donc, tu vois, quand elle est venue, je lui ai dit, ah, bah, je suis contente.
Elle est venue le chercher ici ?
Elle est venue ici. Okay. Je lui ai dit que j'étais contente parce que j'avais l'impression que je confiais ma toile à une bonne personne et qu'elle allait être, tu vois, elle m'a parlé qu'elle allait l'encadrer, la mettre sur ce mur-là. Du coup, j'étais là, ah, oh, c'est...
Je suis
heureuse, elle va être bien, tu vois. Mais en fait, je me sens pas du tout triste, je me sens pas accomplie non plus parce que c'est pas le but final. Mais j'ai l'impression que ça me rapproche de mon rêve. Tu vois, j'ai l'impression... Hier, je me suis dit... En fait, c'est possible. Alors, je ne dis pas que c'est facile parce que je me fais aider et que c'est des personnes professionnelles qui bossent dessus et je ne peux pas dire que leur boulot est facile. Mais
c'est possible.
C'est accessible. C'est plus accessible que ce que je pouvais penser il y a quelques mois où quand j'ai commencé à... j'aime l'art, mais j'y connais rien. Je suis pas une bonne technicienne, tu vois. Par exemple, la céramique, j'ai pas regardé 150 vidéos. J'ai fait des tests. Ok, quand on fait ça, ça casse. Quand on fait ça, ça marche. Ça me prend la tête, en fait. J'aime pas écouter des trucs où t'apprends pendant 10 heures, lire des livres pour apprendre. Moi, j'ai besoin de
pratiquer,
tu vois, de pratiquer, de toucher, de. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser au monde de l'art et à la scène artistique parce que c'est quelque chose dans lequel je voulais entrer. Et pour entrer dedans, j'avais besoin de comprendre. Et surtout, ça m'intéresse énormément. Moi, le métier, par exemple, de galeriste, ça me passionne. Je rêverais de faire un stage avec pendant un mois, deux mois pour comprendre comment on estime une toile, comment on la place. Parce que profondément, c'est un métier, je pense, que j'aurais aimé le faire et que ça me passionne réellement. Donc, j'ai commencé à me renseigner en lisant des livres, écoutant des podcasts, en suivant des personnes influentes dans ce monde-là pour comprendre, pour, tu vois, juste analyser. Et je me suis dit, ok, ça va être hyper compliqué. Ça va être hyper compliqué parce qu'il y a plein de codes que j'ai absolument pas. Je suis pas à Paris, je connais personne, je suis pas dans le milieu. J'ai pas les codes, j'ai rien. C'est trop compliqué. Et en fait, hier, je me suis dit, ok, c'est une vente d'une toile, ça paraît rien pour certains artistes peintres. Mais moi, je me suis dit, ok, c'est quand même un peu accessible. Tu vois, hier, ça m'a rapproché un peu plus de mon rêve et du coup, je n'ai pas senti cette tristesse. J'étais plus, ça va le faire. Enfin, j'espère que ça va le faire. En tout cas, j'ai l'impression que ça serait possible. Ouais.
C'est quoi ton rêve ?
Mon rêve, ça serait d'entrer vraiment dans ce monde-là, de me faire un nom vraiment, vraiment dans le monde de l'art. Aujourd'hui, les personnes qui me connaissent, c'est sur les réseaux, c'est pas dans le monde de l'art. Dans le monde de l'art, je suis personne et je rêverais qu'on puisse me connaître, que je puisse être dans quelques galeries, de pouvoir, je sais pas, vendre des toiles, qu'on parle de moi en tant que peintre. Ça, c'est vraiment le but ultime pour moi, ouais.
Ce qui est super intéressant, c'est qu'on sent que c'est... que t'acceptes que ce soit aussi une partie liée à l'ego, tu vois. Mmh. En tout cas, socialement, de se dire, j'ai envie de pouvoir avoir ce statut d'artiste épanoui, pour qui ça marche, et pour qui, en fait, voilà, je peux exposer et me sentir exister à travers ce métier, mais pas seulement juste de toi pour toi, mais de toi par rapport à tous les autres qui vont venir observer ton travail, le consommer, l'acheter et le vivre.
Ouais, je trouve ça, tu vois, d'être reconnu dans un domaine que tu réalises. Pour moi, c'est ça, tu vois, la validation dont je te parlais au début. C'est que le jour où un galeriste me dit « Ok, je vais t'exposer », là, j'aurai la sensation d'avoir été validée par quelqu'un qui est professionnel et qui me dit en gros, toi, j'ai pas de diplôme de peintre. La plupart des photographes, tatoueurs, vidéastes, ils apprennent un peu tout seuls et on n'a pas ce diplôme, ce papier qui te dit, ok,
tu es artiste.
Là, c'est toi tout seul qui te dit être peintre et je trouve que c'est très dur en fait de s'auto-pro. Ouais, c'est pour moi en tout cas, c'est trop compliqué comme démarche. J'ai besoin que ça soit quelqu'un d'extérieur qui me dise ok, tu l'es, et il y a personne dans la rue qui va t'arrêter pour te dire bonjour, vous êtes désormais peintre. Mais par contre, le fait d'être en galerie ou le fait d'être approuvé par quelqu'un de ce milieu-là me ferait me sentir en fait juste accompli et Et ça y est, c'est bon, t'as réussi, c'est ok, tu t'es arrivé au niveau que tu veux. Et là, je serais heureuse.
Je trouve ça trop cool qu'en tout cas, qu'il y ait ces deux premières toiles qui arrivent. Moi, je vois ça vraiment comme, tu vois, des petites briques de confiance que ça te donne aussi dans ce que t'as déjà fait. Et de dire, ok, ben, ces toiles-là que j'ai mis en place, elles commencent à se vendre. Et en fait, chaque petite brique amène la confiance qui amène aussi vers le rêve ultime à la fin qui est de pouvoir être cette artiste-là.
Incroyable de se dire qu'il y a des gens qui vont investir pour quelque chose que tu as fait de tes mains, et qui vont lui trouver une place dans leur maison, qui vont le voir ce que tu as peint tous les jours. Tu vois, il y a un côté...
C'est une reconnaissance énorme aussi.
Ouais,
ça a une valeur en fait.
Ça a une valeur émotionnelle qui est incroyable. Ouais.
Je suis trop curieux que tu me racontes un petit peu ton processus créatif. Tu m'as montré que tu es en train de préparer un livre qui sort chez Hachette, tu m'as dit, en juin, c'est ça ?
En juin, ouais.
Tu m'as montré ton énorme carnet avec 400 pages, des collages, etc. Je suis curieux que juste même de manière générale, tu me racontes, toi, comment, quand tu veux créer quelque chose, qu'est-ce que tu mets dans ton environnement, dans ton quotidien, dans ton fonctionnement pour arriver à créer ? Est-ce que on peut partir des inspirations, de même tes pratiques, tu vois, mais aussi même il y a peut-être des choses qu'on n'attend pas, tu vois, genre est-ce que tu écoutes de la musique, ou est-ce que tu joues avec des parfums, est-ce que j'en sais rien, tu vois. Je suis curieux que tu me racontes un peu dans ton quotidien, ça ressemble à quoi ton processus de création.
J'ai vite eu besoin de venir ici, de m'isoler, d'être plutôt proche de la nature, donc Dordogne.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, on peut préciser.
Ouais, on est en Dordogne.
Tu as vécu à Paris très longtemps.
Exactement.
Avant d'aller à Barcelone.
Exactement.
Aujourd'hui, tu as fait le choix de t'isoler complètement. Enfin, complètement.
On a fait deux grandes villes et en fait, c'était trop anxiogène pour moi. Moi, je rêvais d'une maison avec des arbres, avec mon potager et mes animaux, tu vois. C'était...
Le côté plus ours.
Moi, c'est ce qui me fait rêver. Après, je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont se dire « Oh mon Dieu !» Mais voilà, moi, c'est le côté qui me fait rêver. Et j'avais besoin d'être plus isolée et plus face à la nature. Donc, on a fait ce choix de venir en Dordogne et d'avoir notre maison et de voir des arbres tous les jours et le ciel.
Tu vois, c'est marrant parce que c'est un truc qui est en rapport aussi avec une forme de pollution. Tu vois, pas pollution dans l'air, hein,
non, mais
sonore, pollution dans ta
visuelle,
vie,
du
fait de, enfin, toutes ces choses-là qui sont médiatiques, qui sont la cohue, qui sont le train-train quotidien, qui viennent aussi perturber parfois ton envie de créer.
Exactement.
Qui sont des choses essentielles, quoi.
Exactement. J'ai besoin, je sais pas créer à plusieurs, j'ai besoin d'être toute seule. Je pense que je suis quelqu'un d'assez agacé. Très vite par beaucoup de choses, trop de lumière, trop de bruit, trop de... J'ai vite un sentiment de... Je ne vois que ça, je n'entends que ça, donc j'aime être seule. J'aime écouter de la musique. Et à côté de ça, j'adore peindre et entendre que le bruit, tu vois, du pinceau sur la toile. Toi, c'est quelque chose qui est hyper apaisant, que j'adore. J'ai pas de gros processus, c'est juste j'ai besoin d'être coupée en fait. J'ai besoin qu'on me laisse, tu sais, il y a un côté un peu presque méditation quand tu crées. Et le moindre petit truc peut un peu te casser dans cet état où juste tu te sens trop bien. Et que
un peu de flow.
Ouais, exactement, où t'es en train de flotter, tout va bien. Et il y a des pollutions, tu vois, sonores ou qui te cassent un peu de ton truc et où ça te coupe. Et moi, c'est juste ça. J'ai besoin d'être isolée, d'être avec ma petite musique et voilà.
Ça roule. Est-ce qu'il y a des trucs qui sont plus durs pour toi dans la création ? Est-ce que tu doutes beaucoup ? Est-ce qu'il y a des choses qui te font peur ? On voit, parce que je trouve ça intéressant de montrer différents aspects aussi. C'est pas facile d'en parler toujours, mais... il y a le côté de Natacha vraiment fonceuse, 100%. On y va, quand il y a quelque chose que j'ai envie d'explorer, j'y vais à fond. Mais je pense qu'il y a aussi des moments où ça bug.
Ouais, évidemment, ça bug tous les deux jours même. Tu vois, c'est pas, je suis pas quelqu'un de très sûr d'elle en règle générale. J'essaye de faire un peu abstraction de ce que les gens... J'essaye d'oublier en fait. Tu vois, quand je publie, je me dis pas, ok, ce nombre d'abonnés là, ça fait quoi dans une pièce, parce que sinon j'ai la tête qui tourne. J'essaye d'oublier un peu ça. Et l'art, je sais que c'est quelque chose qui peut parler à quelqu'un. C'est pas un jugement, c'est juste une histoire d'appréciation. Soit t'es emballé, soit ça te parle pas, et c'est tout à fait ok. Mmh. Et c'est important d'avoir des personnes qui sont critiques et qui aiment ou qui n'aiment pas. Donc si quelqu'un me dit qu'il aime pas ce que je fais, je suis pas, tu vois, je vais pas m'effondrer. Il y a pas de souci. C'est aussi le but quelque part, c'est que c'est comme ça l'art en fait. Après, oui, j'ai des énormes moments où je me demande. C'est plus côté technique, tu vois. J'ai plus de 30 ans. Je viens de commencer la peinture. J'ai pas pris de cours. Je regarde un petit monsieur qui donne des tutos et j'apprends un peu comme ça sur YouTube et il me passionne et j'apprends un peu comme ça mais je tâte et des fois je me dis ah tu vois je suis sur Insta, je regarde d'autres artistes, je zoome, je me dis punaise mais son trait il est tellement propre, comment elle a fait se dégrader, il est parfait et c'est pas de l'envie ou quoi, c'est juste je suis hyper admirative, tu vois moi ma passion sur Terre c'est d'aller faire les galeries et de me coller à 3 mm des tableaux et de regarder genre son trait il est parfait, on voit pas le crayon en dessous, on voit pas le blanc de la toile, tu vois ça me passionne et je sais que je manque encore en termes de technique, donc ouais il y a des moments où je me dis il va falloir bosser encore beaucoup sur mon univers. C'est pas que je suis sûre de moi, c'est que je suis sûre que c'est ce que je te disais au début, je suis sûre
que c'est entier, que
c'est
toi.
Moi en fait et je sais pas faire autre chose et peut-être ça plaît pas mais en fait je tricherais si je peignais autre chose.
Bien sûr.
Tu vois donc sur ça je suis assez sûre de savoir que moi c'est ce que j'aime peindre. Mais oui, je me pose un tas de questions, ne serait-ce mon feed, est-ce qu'il est assez peintre, est-ce que ça fait pas trop influenceuse, j'ai beaucoup trop d'abonnés pour une peintre, il faudrait que j'en ai moins, tu vois, j'ai plein de questionnements où des fois je me dis, allez, arrête de te prendre la tête et juste crée et ce qui arrivera ou n'arrivera pas d'ailleurs, mais ouais, il y a énormément de doutes tout le temps et puis tu te compares forcément comme dans tous les métiers.
Ouais. Tu disais que tu n'étais pas forcément quelqu'un qui avait beaucoup confiance en elle. Est-ce que c'est facile pour toi de montrer ton travail, de vendre ton travail, même pas forcément monétairement, tu vois, mais genre parler de ton travail, l'exposer? C'est quelque chose qui est
c'est
facile.
Plus facile pour moi de montrer ce que je fais que ce que je suis.
Ok. Comme si l'art était un peu une protection.
Ouais.
Ou un truc que tu...
Tu sais, en fait, on en parlait un petit peu avant, quand je faisais plus d'influence, je me montrais beaucoup plus, du coup, en vidéo, en photo. Et pour moi, c'est un exercice extrêmement dur. Et depuis que je peins, j'ai pris un recul sur ça parce que je me suis rendu compte que je passais moins de temps... tu vois, à éditer mes photos et du coup à me voir toute la journée ou à me voir au montage. Et d'ailleurs, je suis très contente de ne pas faire ce montage aujourd'hui parce que, tu vois, il y a un côté très dur de se voir à l'écran toute la journée. Tu t'enlèves des complexes en disant « ouais, ça va, en fait, c'est pas si horrible ». Et par contre, t'en découvres d'autres en disant « ah ouais, par contre, j'avais pas capté que, tu vois, quand je fais ça, je suis comme ci ou comme ça ». Et il y avait un côté qui était devenu très dur. J'étais devenue très, très dure avec moi. Et c'est là où je me suis dit « en fait, j'en peux plus d'avoir cette pression ».
C'est pas ça qui me rend heureuse, quoi.
Tout le temps, tu vois. Alors que là, quand je peins, en fait, on s'en fout de qui je suis, de comment je suis, de c'est pas le propos en fait, c'est pas moi sur le feed, c'est pas moi qu'on veut voir, c'est pas moi qui suis jugée. Et du coup moi ça me détache de tout ça et en fait aujourd'hui je suis vachement plus relaxe avec moi-même que je l'étais il y a encore 2-3 ans où j'étais des fois en pleurs devant une photo en disant mais c'est pas possible, enfin tu vois, où c'était vraiment devenu très très dur. Donc l'art il m'a permis de
trouver une paix un peu,
ouais, et de me dire c'est pas moi le sujet et c'est cool. Et non, montrer mes toiles, ça ne me fait pas tellement peur. Vraiment, je suis hyper OK avec le fait qu'on puisse ne pas aimer. Et mon rêve ultime, ce n'est pas d'être la meilleure peintre de France. Ou juste, j'ai envie un jour de me dire, je suis dans une galerie et juste je serais fière, même si c'est
ça
deux
va arriver,
jours.
Hein. Ouais.
Juste je serais fière.
Je serai là pour le vernissage.
Mais j'ai pas de grosse attente sur la peinture, c'est juste, j'ai envie, tous les jours, je me réveille et juste j'ai envie de peindre. Et voilà, ça s'arrête à ça.
C'est marrant parce que quand on regarde, quand on prend un pas de recul un peu sur les différentes directions que tu as prises dans ta vie,
ouais.
C'est intéressant de voir que la précédente, qui précédait l'art, était peut-être un endroit où tu étais moins à ta place, mais elle t'a quand même permis de continuer à explorer et de trouver de plus en plus l'endroit où tu te sentais bien, tu vois. Ouais. Et là, quand tu parles de tes créations, quand tu parles de tes peintures, quand tu parles de ton côté artiste, on sent que genre t'es en paix, tu vois, et que tu vas être encore plus... mais ce serait peut-être pas arrivé s'il n'y avait pas eu l'étape d'avant où l'influence t'a aussi apporté compétences, d'autres trucs qui t'ont permis ensuite de dire attends, ça c'est super intéressant, je l'ai exploré, mais il y a ça qui me déplaît, comment je peux bifurquer vers un truc qui me rapproche encore plus de
complètement,
moi.
Complètement, et franchement c'est pour ça que je te disais, je crache pas du tout sur ça. Déjà l'influence, ça m'a permis de développer un réseau, et aujourd'hui je suis hyper consciente que si les marques m'approchent pour faire des co-créations avec mes peintures, c'est aussi parce que j'ai une image et aussi parce que j'ai des abonnés, et c'est pas parce que ce que je fais est merveilleux, et que évidemment qu'il y a aussi et tout ça, ça a été des années de boulot, et ça me rapporte encore aujourd'hui, et c'est grâce à ça même que j'arrive tout doucement à me faire un nom, ou du moins à peindre pour des marques et tout, tu vois. Donc ça a été important dans le processus, et c'était parfait, ça sera à refaire, ça, je le ferai de la même manière. Mais j'ai mis du temps en fait à me dire... ça me semblait trop inaccessible en fait. Réellement, pour moi, être peintre, ça n'existait plus. Tu vois, tu fais la peinture le dimanche.
Tu pensais quand tu étais petite de te dire un jour je pourrais être peintre ?
Ouais, c'était, moi c'est mon rêve de toujours. Mais quand j'ai commencé les écoles d'art, les sites internet commençaient à arriver vraiment. Et on m'avait dit, ouais non mais attends, là il faut que tu apprennes à coder. Donc j'ai fait une école pour coder. Donc je faisais des sites internet, tu vois, j'ai commencé comme ça. Et ça me faisait chier parce que c'était pas, il n'y avait pas de patouille, il n'y avait pas de matière. Il y avait, c'était...
Tout l'opposé quoi. Enfin, pas l'opposé mais ouais.
Pour moi, c'était pas ça que je voulais ressentir, mais c'était ce qu'il fallait faire au moment venu pour avoir un boulot. Et du coup, il n'y a pas de souci, j'y suis passée, et après il y a eu la photo, après il y a eu la vidéo, et après il y en a eu marre des écrans. Et il y a eu, moi ce que je voulais faire, c'est ce que je faisais en école d'art en fait, tu vois, quand je dessinais, je peignais, sauf qu'aujourd'hui, t'as un crédit, t'as deux enfants, et vendre des toiles... Bah, ça rapporte pas beaucoup, et c'est pas si simple, tu vois. Donc je l'ai fait en étant consciente que j'avais beaucoup de chance, parce que derrière, j'avais déjà des marques qui me suivaient, j'avais déjà... j'arrêtais pas mon métier vraiment, je le transformais. Je gardais mes bases, mes clients, mes abonnés, tout ça, je le gardais, mais je le transformais doucement. Oui, j'ai perdu en pouvoir de like, en vue, parce que évidemment c'est hyper clivant, tout le monde n'aime pas la peinture, beaucoup de personnes ne me suivaient pas pour ça, et du coup bah, se reconnaissaient pas dans la peinture, mais je suis hyper ok avec ça, tu vois, c'est pas grave même si j'ai moins d'abonnés, moi ça me...
Ça te convient, du moment que t'es à ta place.
Mais au moins je fais ce que j'aime aujourd'hui. Mais je l'ai fait comme quand on est parti à Barcelone, j'avais les bagages, je savais que ça...
Ouais. T'as déjà des premières choses dans ton sac.
Et je suis consciente de ça, tu vois, je dis pas, ouais, quittez tout, plaquez tout, allez vendre vos toiles, c'est grave facile. Moi, je partais avec beaucoup d'aide parce qu'il y avait déjà des marques derrière moi et tout, tu vois. Donc c'était d'autant plus dommage de pas le tenter.
Ouais. C'est marrant parce que ce que je trouve très fort là-dedans, c'est que le côté au début, c'est inaccessible. Devient finalement accessible au fur et à mesure des petites répétitions, des directions successives qui mettent des choses dans ton bagage, dans tes atouts, dans les choses que tu développes. Et à un moment, tu te dis en fait, bah, la prochaine étape, ça pourrait être ce truc que je trouvais inaccessible, qui est de me mettre à peindre et de pouvoir en vivre et de pouvoir développer ça, quoi.
Donc, exactement. Ça, c'est... Exactement. Et je suis hyper consciente que, en fait, c'était ça le point. C'était de me dire, t'as une chance folle parce que t'es suivi par des personnes. Quand tu montres quelque chose, ça... Il y a des réactions, plus ou moindres, selon ce que tu montres, mais on t'attend quelque part. Quelque part, il y a des réactions. C'est pas genre tu postes et t'as 3 likes, ta tante, ton grand-père et ta mère. Tu vois, là, il y a des gens qui sont là, qui te soutiennent. Et il y a des marques, et c'est un luxe incroyable. Il y a combien d'artistes qui rêveraient d'avoir cette presque galerie personnelle qui est autant visitée. Et en fait, je me sentais mal de pas m'en servir. Je trouvais ça injuste par rapport aux gens qui rêveraient d'avoir tout ça. Et tu vois, j'ai une prise de conscience en me disant, tu peux pas te plaindre, toi, que tu vas que c'est inaccessible, alors que tu pars quand même avec une super aide et des super privilèges. Mmh. Et du coup, t'as pas le droit, t'es obligé de le tenter, tu vois.
Est-ce que tu dirais que t'es... Dans toutes tes casquettes, tu te considérais aussi comme entrepreneuse ? Parce qu'on... Je te pose cette question parce que moi, je trouve ton travail est magnifique. Il a... Et t'as un côté très poétique, tu vois, dans ce que t'approches. Tu vois, presque le côté artiste, justement. Mais... C'est, je trouve ça génial ce que vous avez construit avec, avec ton mari. Là, on est dans ton atelier. Au-dessus, il y a un café. Vous vendez aussi des choses que vous faites. Il y a le salon de tatouage à côté. Et il y a plein d'autres projets qui se développent. Il y a forcément une casquette de toi ou de vous, en tout cas en tant que couple, qui est entrepreneuse aussi. Entrepreneur.
Ouais. On met, mais toujours. Enfin, toujours. On a arrêté nos CDI. On s'est dit, c'est bon, plus jamais de patron, en fait. Ouais. Et alors, on a dit ça, mais on savait peut-être que dans 3 mois, on devrait reprendre un taf. Mais voilà, on était un peu révoltés, tu vois. Et du coup, on a commencé par les réseaux sociaux. On s'est un peu créé notre taf et on gérait du coup cette petite société. Ensuite, on a décidé d'arrêter une première fois. Tu vois, donc c'est quelque chose qui revenait régulièrement en disant « Non, mais là, j'en ai marre. J'ai pas envie d'être un flux. C'est pas ça, mon métier. » Et du coup, on a fait un studio de créa où on était vidéaste et où on bossait pour des marques. Et du coup, j'étais plus devant l'écran, mais derrière. Et ça me passionnait de... C'était trop cool. C'était moi qui filmais des filles et c'était plus, tu vois, l'inverse. Et puis, comme tout, ça nous a un peu passé. Et on s'est dit, oh, tiens, maintenant, on va faire... Mais oui, il y a... On aime bien entreprendre. On pense déjà à qu'est-ce qu'on fait dans... Tu vois, on est déjà dans qu'est-ce qu'on fait dans 3 ans.
Et est-ce qu'il y a eu des périodes où, tu sais, cette dualité entre création et entreprise ou entrepreneuriat, est-ce qu'il y a eu des moments où l'un bouffait l'autre, tu vois, où je me dis, tu vois, ça peut être... Je le vois dans mon quotidien. Mm. Moi, j'adore créer. J'ai envie aujourd'hui de me bloquer la moitié de mes journées pour créer, explorer, etc. Et je sais que parfois, la partie entreprise qui te permet aussi de manger... Elle bouffe une partie de ce temps de création parce que urgence, parce que rendez-vous, parce que j'essaie de la protéger. Mais ça a dû être un sacré défi et enjeu aussi, quoi.
On délègue pas mal, on se fait beaucoup aider. Ouais. Moi, par exemple, je travaille avec un agent depuis 3 ans qui gère tous mes mails, tous les contrats, toutes les choses qui me sont trop chronophages, trop anxiogènes et que je ne sais pas faire, tu vois. Relire un contrat, négocier...
C'est pas ton boulot.
Au secours. Ah non, mais ça, en plus, ça m'angoisse. Enfin, tu sais, moi, je veux pas savoir. C'est... mais après, oui, on a une boutique café qui, là, on gère que nous deux. Et oui, ça nous demande un temps fou et on se bloque des semaines complètes à être dans les papiers, dans la comptabilité. Et on espère pouvoir le déléguer à un moment donné parce que ça bouffe sur notre temps de création et parce que... Et parce que c'est pas ce qu'on veut faire et que c'est pas notre taf, tout simplement. Mais ouais,
vous arrivez quand même à mettre les limites
déléguer,
pour...
Ouais, on essaye de déléguer au maximum tout ce qu'on peut. Moi, mes toiles, c'est notre agent qui agente, même qui s'en charge. Et plus on peut déléguer et mieux c'est. Et oui, on paye des personnes. Mais en fait...
C'est ce qui permet aussi d'avoir la paix.
Ouais.
Et là, une tranquillité d'esprit.
Et
qui...
quand tu travailles, mine de rien, les heures sont de l'argent, les heures de production sont aussi de l'argent. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était plus perdant à tout faire nous et à ne pas payer les personnes qu'à payer des personnes
Bien
et
sûr.
Pouvoir travailler. Et tu vois, il y a un espèce de petit fonctionnement
comme
ça.
C'est même en microéconomie, ça s'appelle le coût d'opportunité.
Et ben voilà.
Mais c'est très intéressant.
Exactement.
Et ça me fait très plaisir que tu me racontes tout ça parce que moi, avec ma femme, Laetitia, on se pose la question de créer un lieu, une maison pour les créateurs. Et c'est intéressant de voir aussi à quel point, de vous voir évoluer comme ça. Mmh. Moi, ça m'inspire aussi à me dire voilà, comment ils agencent leur truc pour que ça puisse exister.
Et au début, vous allez...
On va galérer et puis ensuite, on va mettre les
limites. Non, mais nous, il y a eu 2 mois de galère parce qu'on n'avait jamais ouvert de commerce et qu'on était un peu naïf et qu'on s'est dit, vas-y, on achète du stock, on met ça dans l'armoire derrière, on fait un check toutes les semaines. Quand il manque une boîte, on va la racheter. Puis voilà, tu vois. Sauf que non, ça ne se passe pas comme
ça. Un peu plus complexe que ça, finalement.
Mais évidemment, tu vois, il faut des tableaux, il faut les noter, il faut des fournisseurs qui te rapprovisionnent à chaque fois de manière presque automatique parce qu'il n'y a pas qu'un créateur, il y en a 50. contente parce que ça se passe pas comme ça. Et du coup, on a rattrapé un petit peu tout sur le tard en faisant des vrais trucs professionnels avec des tableaux, avec un comptable. Et on s'est dit, ouais, ok, on était un petit peu... Mais c'est pas grave, tu vois, ça fait partie du truc et on a appris mille choses pendant ces 2 mois-là. Et oui, pendant 2 mois, on n'a pas créé. Et moi, ça me rendait complètement folle. Et, et je me rattrape aujourd'hui, tu vois. Mais la double casquette, elle n'est pas toujours évidente, mais elle est nécessaire. Tu ne peux pas juste, tu vois, peindre et vivre comme ça de peinture et de poésie et d'art. Et ouais, il y a des choses plus terre à terre avec des décisions à prendre, avec des équipes à manager, avec... C'est 10% de contraintes sur 90% de métier qui est le métier de tes rêves. Donc, on s'en sort quand même bien.
Le deal est bon.
Le deal est OK.
Il y a 2 questions que j'aime bien poser à la fin du podcast. Il y en a une première, très simplement. On a pas mal de créateurs qui sont sur le début de leur chemin de la création. Est-ce qu'il y aurait une idée qui, toi, t'a aidé, un principe, un conseil peut-être, qu'il leur permettrait d'avancer encore mieux et d'être mieux équipés grâce à ça pour avancer?
Je me dis juste que les choses, il faut les rêver d'abord très fort avant de les accomplir. Et pour moi, c'est la première étape de tout le processus, que ça soit une ouverture d'un café, d'une nouvelle toile, d'un nouveau projet. C'est que si tu les rêves pas fort, elles vont être compliquées à réaliser. Et que c'est hyper important d'avoir ce temps-là de rêve, en fait, de ces 3 jours où tu fais peut-être rien, tu es en train mentalement, tu vois, de le rêver, de l'espérer, ou même quand tu fais tes courses, t'y penses. Et je pense que plus tu rêves la chose forte, plus tu la visualises, plus tu l'imagines, et plus c'est facile après de la mettre en place parce que tu t'es déjà posé toutes les questions, tu vois, tu l'as déjà un petit peu absorbé, presque digéré. Et je me dis que la place au rêve, elle est trop importante quand tu commences un projet et qu'il ne faut pas avoir peur de la rêver hyper fortement. Et pas que ça soit juste, ouais, j'ai un petit projet, on va le lancer, on verra. Non, tu vois, tu vois, moi, et je sais que des fois, ça peut paraître un peu prétentieux et loin de moi. Enfin, j'espère pas. Mais tu vois, moi, j'hésite pas à avoir des rêves, des fois, qui sont complètement... Je le dis à mes agents. Bon, je te dis un truc, flippe pas. Hein, si ça arrive jamais dans ma vie, c'est pas grave. Mais tu vois, moi, mon rêve, et je vais leur sortir un truc de ouf, ils vont me dire, mais Natacha, tu veux pas qu'on commence par... oui, on va commencer par
petit. C'est quoi ton rêve le plus fou qui te vient là? Genre un truc que ton agent était sidéré.
J'adorerais exposer au Japon. Moi, c'est mon rêve, c'est de pouvoir toucher le public coréen, enfin asiatique, même les œuvres. En fait, moi, toutes les œuvres que je vois qui me touchent, elles sont soit à Hong Kong, soit c'est fait par des artistes japonais. J'ai vraiment... L'art asiatique me... il y a quelque chose de très onirique, de très figuratif qui me touche énormément dans l'art contemporain asiatique. Ça m'inspire énormément. Moi, mes voyages au Japon, c'est je repars, j'ai des idées pour 1000 ans, tu vois. Et vraiment, mon rêve fou, ça serait d'être exposée quelque part en Asie. Mais je viens de vendre ma première toile hier, tu vois. Donc déjà, il va falloir...
C'est le premier pas sur le chemin.
Il y a beaucoup de boulot. Ça sera sans doute dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être jamais. C'est pas grave, mais... Ça ne me fait pas peur de le dire et ça ne me fait pas peur de le rêver. Et si ça n'arrive pas, c'est OK, il n'y a pas de souci. Mais moi, je n'ai pas envie que mon rêve, ça soit un petit truc qui me semble trop accessible. Sinon, c'est trop facile. C'est plus un rêve, ouais, exactement.
Trop cool. Et une dernière question. Je trouve que le podcast a aussi un rôle... j'ai envie de pouvoir éveiller les créateurs, tu vois, qu'on puisse voir d'autres chemins sur notre truc. Et donc, je suis juste curieux. C'est quoi la dernière chose qui t'a éveillé, surprise où t'as ouvert les yeux et tu te dis « Ah, super intéressant !»
Écoute, je suis rentrée dans des galeries d'art pour la première fois il y a 2 mois. Tu vois, quand j'étais en école d'art, on faisait Beaubourg, des grands musées. J'avais jamais osé pousser la porte d'une galerie parce qu'il y a un côté un peu austère, un peu pas très fun.
Codé.
Très codé. Je ne savais pas s'il fallait payer, si c'était une entrée gratuite, si j'étais assez bien sapée, si j'étais assez souriante. Du coup, tu vois, on a poussé les portes en se disant, ça se trouve, ils vont me dire, excusez-moi, c'est pas pour vous. Donc, je suis allée planquer derrière mon mari en le mettant devant et en disant, on peut rentrer, regardez. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est un peu bête parce qu'ils voient des gens défiler toute la journée et ils s'en foutent de comment t'es habillé et c'est gratuit, pour information. Et en fait, on a passé deux jours à Paris à faire toutes les galeries petites, grandes, possibles. Et j'ai trouvé ça incroyable, en fait, de voir autant d'œuvres différentes, de pouvoir s'en approcher, de pouvoir regarder la technique. D'une galerie à une autre, c'est un univers différent. Tu peux te poser, tu peux dessiner, écrire, repartir avec. C'est hyper enrichissant. Tu peux faire des photos. En fait, je me suis dit, mais mon Dieu, c'est des idées là, partout. Même si t'en feras rien, juste de se dire, ah ouais, c'est ouf, sa technique et tout. Et ça m'a mis une vraie claque et ça m'a vachement confortée en me disant, ok, ta technique, elle n'est pas encore là, mais t'es pas si loin, tu vas y arriver.
C'est sur le bon chemin.
Ouais, tu vois, ça m'a un peu... c'était pas des œuvres que tu vois au Louvre ou dans des beaux livres ou sur Insta où tu vois pas vraiment les détails et tu te rends pas compte de... Là, tu vois en vrai la matière, tu vois en vrai les détails. Et je me suis dit, ça va aller, tu vois, ça va être possible et tout. Et pour moi, ça a été ces derniers mois, ça a été le plus grand waouh. Et là, je pense qu'à ça. Là, on est parti à Rome, on n'a rien vu de Rome. On est resté dans des galeries toute la journée, dans des églises. Et j'étais là encore.
Et, il va en avoir marre, Dinesh, le pauvre.
Ça va.
Non, au contraire, il est peut-être content.
Ça va. Mais j'ai mis du temps à pousser ces portes. Et je trouve ça dommage. Et si ça peut donner aux gens envie d'eux.
C'est presque métaphorique, hein. Aller pousser les portes.
Ah ouais, vraiment. vraiment. Je sais que ça fait un peu peur, mais c'est OK. Une fois dedans, c'est OK. C'est hyper bienveillant. Et y a plein de belles choses à voir.
Trop cool. Merci beaucoup, Natacha. J'ai un petit cadeau pour toi pour finir. Je l'ai trouvé à Périgueux.
Ah !
Donc peut-être que tu connais la librairie. Est-ce que tu lis des livres ou pas ?
Ouais, énormément.
OK. Cool, bah, je pense que ça devrait te plaire. J'hésite avec un autre et tu m'as parlé du Japon. Mais je te le recommanderais aussi l'autre parce que je pense qu'il peut te plaire d'une auteure japonaise. Mais c'est pas celui-là.
C'est la toute petite librairie.
C'est une librairie qui est pas très loin. Ça s'appelle la librairie des Ruelles. Et c'est très sympa. Et donc c'est un petit livre de poésie. Je sais pas si t'aimes la poésie.
J'adore la poésie.
Ok, parfait. Je me suis dit avec l'univers que t'as, en fait, à chaque fois j'essaie de me mettre dans ta tête.
Écoute, merci.
Tu vas voir, c'est magnifique.
Ouais,
rien que on peut dire le nom pour au podcast.
Et recoudre le soleil.
De Gaël Josse.
Ouais, et du coup, rien que le nom déjà.
Et tu vas voir, c'est vraiment très fort. Et l'autre que je voulais te recommander, je sais pas si tu l'as lu, c'est une fille qui s'appelle Ryoki Sekiguchi ou Ryoko Sekiguchi.
Pas du tout.
Je te redonnerai le nom après.
Ouais.
Elle a fait un livre qui s'appelle Nagori.
D'accord.
Qui est sur l'art de l'instant présent.
Ok.
Et c'est une japonaise du coup, une réflexion sur profiter de. Je sais
de
plus ce que ça veut dire Nagori, mais de l'instant présent, en gros les feuilles qui tombent ou un truc comme ça. Et c'est très beau.
D'accord.
Si je l'avais trouvé, je t'aurais pris celui-là, mais celui-là est très bien aussi.
Écoute, merci beaucoup.
Avec plaisir.
J'ai hâte de le lire et je suis sûre que ça sera hyper inspirant.
Et je voulais juste te remercier. C'était vraiment très chouette de discuter
plaisir,
avec toi.
Donc, merci à toi.
Merci d'avoir accepté l'invitation.
Merci à toi.
Salut Natacha.
Les amis, merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. C'est un épisode qui m'a particulièrement fait réfléchir dans cette saison parce que moi aussi j'ai envie de créer un lieu et quand je vois ce qu'elle a fait à Périgueux avec Maison Birds, ça me donne envie d'aller encore plus loin, moi aussi dans ses projets. C'était juste passionnant de pouvoir échanger avec Natacha et comprendre à la fois son parcours, mais aussi toutes les leçons et les évolutions qu'elle a tirées de tout ça, donc j'espère que ça vous a plu aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, mettez-moi un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, ou juste parlez-en à vos amis, ça fait vraiment grandir le podcast, et je vous remercie de tous les messages, de tous les messages que vous m'envoyez chaque semaine pour chaque épisode du podcast. Alors dans la suite des conseils de Natacha, j'ai envie de vous dire, allez-y, continuez à créer, et essayez d'apporter les plus belles contributions au monde, et l'avenir peut être que radieux. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode qui va beaucoup vous plaire, je pense.